Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 1er novembre, jour férié, c'est la Toussaint. Et la Toussaint, ce n'est pas la fête des morts, comme on nous le rappelle tous les ans. Non, la fête des morts, c'est demain, selon la tradition catholique romaine. Mais nous, dès aujourd'hui, on va fêter un grand disparu, Freddie Mercury. Depuis hier, on peut voir au cinéma Bohemian Rhapsody, le film tant attendu qui retrace la carrière de Freddie Mercury, le leader du groupe Queen, emporté par le sida en 1991. Pour nous en parler, le critique cinéma et pop culture du magazine Transfuge, Steve Krieger, et nous aurons au téléphone à partir de Minneapolis où il vit Salim Rohwer qui a signé une biographie de Freddie Mercury né Farouk Bulsara chez Fayard. Et également avec nous, Michel Simon et tout ce beau monde est en forme comme si on n'était pas passé à l'heure d'hiver. Le réveil culturel avec Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation, Frédéric Changenet à la prise de son. C'est parti!
Gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop. I'm having a good time, having a good time.
I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping.
Salim Rohwer, bonjour, vous êtes avec nous ?
Bonjour.
Oui, bonjour, vous êtes poète, écrivain et metteur en scène. Il y a 10 ans, vous avez publié chez Fayard cette biographie de Freddie Mercury qui ressort, qui est rééditée à l'occasion de la sortie du film que vous avez sans doute vu, n'est-ce pas ?
Eh bien non, pas encore.
Pas encore.
Il n'est pas encore sorti aux États-Unis et j'ai pas eu l'occasion non plus de me rendre à une projection en presse.
Bon, parce que c'est un portrait intime. Vous-même, vous dressez dans votre livre le portrait intime de Farouk Bulsara, donc indien parsi, né à Zanzibar, élevé près de Bombay et qui deviendra sous le nom de Freddie Mercury, leader du groupe Queen, une star du rock, l'un des chanteurs britanniques les plus célèbres du XXe siècle. D'abord, pourquoi votre intérêt pour Freddie Mercury?
Ce projet a émergé parce qu'il n'y avait pas de... D'abord, il n'y avait pas de livre écrit en français sur Freddie Mercury. Il y avait des traductions, il y avait quelques ouvrages qui étaient sortis, mais qui n'étaient pas véritablement exhaustifs. Et puis surtout, il n'y avait pas d'ouvrage qui était à la fois, j'allais dire, biographique, mais en même temps critique, analytique. Donc,
parce que vous le dites d'ailleurs très bien en préambule, Freddie Mercury était peut-être une star extravagante, mais c'était surtout un chanteur très énigmatique.
Oui, absolument. Il a vraiment beaucoup travaillé sur cette notion du secret. Il s'est créé un personnage qui était un peu qui est devenu finalement une figure de commandeur, comme ça, assez écrasante, même pour lui, peut-être aussi pour son entourage. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de retracer dans ce livre, c'est le parcours d'un immigré. C'est quelqu'un qui vient véritablement, dans tous les sens du terme, d'un autre monde. D'une ancienne colonie, enfin d'un protectorat britannique. Il est né à Zanzibar. Et puis, il fuit avec sa famille des bouleversements politiques qui ont lieu là-bas après son retour d'Inde, où il a été scolarisé. Et il arrive en Grande-Bretagne à l'âge de 18 ans, et là, il doit se construire, en fait. Il doit se fabriquer, mais selon de nouvelles modalités. Et c'est quelqu'un qui vient d'un milieu assez conservateur. Et ce que j'ai trouvé assez admirable, c'est justement comment cette personne est parvenue à cette idée un peu nietzschéenne, comme ça, à se construire à liberté, en fait. Et à s'imposer dans une société où il n'était pas évident pour quelqu'un comme lui de s'imposer.
Parce que d'origine étrangère, parce que homosexuel aussi ?
Oui, parce que bien sûr, il y a tous les a priori de classe, de race, en tant que construction culturelle. Et puis, il y avait aussi, bien sûr, le milieu, le poids. La découverte de sa sexualité, elle est arrivée probablement progressivement. En tout cas, il l'a vécu progressivement. Je crois qu'il y a chez lui, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on le voit très très bien dans ses prestations scéniques. C'est quelqu'un qui met vraiment sa peau sur la table. C'est quelqu'un qui se vit totalement sur scène. Il est d'une sincérité incroyable. Je pense que les seules équivalences qu'on puisse trouver dans le monde de la musique, c'est peut-être ça va bien au-delà du rock. Je pense que c'est peut-être Maria Callas, par exemple, ou Montserrat Caballé, dont il a été assez proche. Donc je crois qu'il a vraiment dû essayer de se fabriquer selon... Il y a quelque chose de très dionysiaque dans ses prestations scéniques, et en même temps quelque chose de très lumineux.
Alors, pour écrire ce livre, Salim Rohair, vous avez enquêté, ça vous a pris beaucoup de temps d'ailleurs, vous avez rencontré aussi bien les proches de l'artiste, c'est-à-dire la famille de l'artiste, que ceux qui ont travaillé avec lui dans le business de la musique, dans l'industrie musicale.
Oui, j'ai rencontré certains de ses proches, j'ai surtout rencontré deux personnes qui ont été déterminantes dans ma recherche. C'était David Evans, qui était un de ses plus proches amis, qui le connaissait bien avant qu'il soit connu, et qui est un écrivain britannique, et surtout son assistant Peter Freestone, qui a été à ses côtés durant 10 ans, et jusqu'à la toute dernière minute, en fait. Il était à ses côtés au moment de sa mort. Et j'ai pu justement peut-être discuter avec eux, aborder Freddie Mercury d'une façon, je pense, assez nouvelle. Je pense que, en règle générale, beaucoup de journalistes, surtout les journalistes anglo-saxons, ont toujours voulu avoir un accès au personnage d'une façon, j'allais dire, il y avait quelque chose d'un petit peu racoleur dans tout ce qui avait été publié sur Freddie Mercury et finalement de trop anecdotique. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir quelle était son intimité, quelle était sa relation avec la musique, sincèrement, comment est-ce qu'il se percevait lui-même.
Ses racines sont très importantes. La découverte de l'Angleterre en plein air du Swinging London vous paraît fondamentale aussi dans la constitution du mythe Freddie Mercury ou du personnage Freddie Mercury.
Oui, il y a eu une très grande influence. C'est bien qu'il y a des influences musicales qui sont très diverses, qui viennent bien sûr du classique, ça on le sait, de l'opéra. Et puis deux influences essentielles, ce sont les Beatles dans les années 60. John Lennon, qui est resté pour lui vraiment un modèle en termes de qualité, de composition musicale. Et puis Jimi Hendrix, qui a été une vraie révélation pour lui en termes de prestations scéniques. Il a suivi Jimi Hendrix à plusieurs reprises. Il a même fait des voyages en Grande-Bretagne pour aller le voir se produire sur scène. Et ça a été un vrai bouleversement. Et je crois que c'est là qu'il a appris, il a compris en fait quel était l'enjeu d'une prestation rock. C'est-à-dire... comment s'adresser à une foule comme si on s'adressait à un seul individu. Et lui, il est parvenu à le faire à travers le plus bel instrument qui était en sa possession, qui était sa voix.
Merci beaucoup, Salim Rohair. Je rappelle que votre biographie de Freddie Mercury est disponible chez Fayard.
Merci à vous, merci de votre invitation.
Mama just killed a man. Trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again, my time has come.
Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury, le groupe Queen et le film qui retrace la carrière, l'itinéraire du leader de ce groupe est sorti hier. Bonjour Steve Krief, pourquoi le film porte le titre de cette chanson Bohemian Rhapsody ?
Bon, je pense que c'est assez évident parce que il s'agit quand même Bohemian Rhapsody de la chanson la plus connue de Queen et sans doute la plus belle ou au moins une des plus belles qui traverse différents mélanges pour créer cette chanson-là de genres musicaux, de moments de sa vie.
Et ça ressemble un peu à la vie, à l'itinéraire de Freddie
Mercury. Tout à fait, c'est un très très bon résumé de ses angoisses, de ses craintes, de ses exubérances et de sa recherche de dignité. Parce qu'une des choses qui m'a le plus marqué dans le livre de Selim Rower, qui est assez important, c'est le développement du thème de la dignité. Parce que aussi exubérant soit-il, Freddie Mercury est quelqu'un de très digne à travers tout son parcours. Et Bohemian Rhapsody rassemble tout ça. Parce que sur l'album déjà de Bohemian Rhapsody, il y a la chanson par exemple « Love of My Life » qui est dédiée à Mary Austin, qui était vraiment l'amour de sa vie. Et il y a toutes sortes de choses dans Bohemian Rhapsody, dans la chanson, dans l'album. Et c'est vrai que c'est l'album qui a révélé Queen au monde entier. Pas seulement en Angleterre, à l'Amérique, à tous les genres musicaux et qui a détruit tout classement possible de ce groupe.
Alors, vous avez vu le film, Steve Krief. Est-ce que vous avez retrouvé d'abord le Freddie Mercury de votre adolescence, puisque vous avez beaucoup aimé le groupe Queen?
Ah, tout à fait. Pour moi, c'était un des plus importants groupes.
Pourquoi d'ailleurs?
De mon enfance.
Pourquoi ce groupe et pas un autre?
Par sa faculté de surprendre. Parce que c'est important pour moi, avec quelqu'un sur scène, j'ai beaucoup travaillé sur l'humoriste américain Lenny Bruce, et les grands humoristes américains, comme les grands chanteurs, doivent avant tout surprendre leur public. Être, comme disait James Cagney, to be on your toes. Voilà, et toujours être prêt au combat, comme un combat de boxe. Donc, faut attraper le spectateur, faut l'élever, faut avoir la prétention de lui apporter quelque chose et de le permettre de s'élever lui aussi avec la personne sur scène. Donc, Queen a réussi ça. Comme Bowie, comme d'autres artistes, ils ont dépassé tous les genres, ils ont été influencés par certains genres et eux ont influencé d'autres. Alors, ce n'était pas toujours des succès, notamment leur épisode disco, mais ce qui m'a marqué, c'est vraiment leur capacité de renaître, comme le symbole, le phénix, qui est un des symboles de Queen, inspiré par le symbole de son école en Inde, et aussi ces différentes rencontres, parce que moi je suis né en 73, donc Queen ce n'était pas seulement une rencontre musicale, j'étais un peu trop jeune pour aller à leurs concerts, mais je les ai découverts à travers des films. Il y a bien sûr le film Wayne's World qui a redonné vie à la chanson Bohemian Rhapsody, et d'ailleurs ce qui est drôle c'est que grâce au film, la chanson est arrivée au classement des charts américains plus haut que lors de la sortie originale, et Freddie Mercury l'a entendu juste avant sa mort, Mike Myers lui avait envoyé les rushs pour obtenir l'autorisation, selon Brian May il était mort de rire, il a adoré et donc il a donné son accord.
À propos de cette musique de Freddie Mercury qui va être populaire, y compris dans les milieux où on ne l'attendait pas du tout, c'est-à-dire les supporters de foot qui reprennent un hit de Freddie Mercury, ça devait sans doute le faire sourire, Freddie Mercury.
Ah oui, ça l'amusait, il était capable justement d'avoir différents publics qui l'aimaient ou d'autres qui le détestaient. On sait qu'il y a eu cette fameuse dispute avec les Sex Pistols, c'est Sid Vicious dans un studio qu'ils partageaient, c'était pas tout à fait leur début, mais bon, ils n'étaient pas encore très connus, donc ils étaient obligés un peu de partager le studio, et donc les quelques heures qu'ils avaient pour le studio, à un moment ils se retrouvent avec les Sex Pistols, et Freddie Mercury avait déclaré qu'il souhaitait démocratiser le ballet. Et donc Sid Vicious vient vers lui et dit « Oui, alors où en es-tu avec ta démocratisation du ballet pour les masses ?» Et alors Freddie Mercury était assez énervé par ça. Il lui a dit « Oui, petit Simon Ferocious, il s'est moqué de lui. » Et l'autre s'est énervé. Et Freddie Mercury lui a dit « Qu'est-ce que tu veux en faire, hein? What do you want to do about that ?» Et donc Sid Vicious vient un peu énervé. Freddie Mercury l'attrape et le jette dehors parce que pour oublier qu'il était boxeur. Et donc une de ses manières pour lui de défendre sa dignité quand il était gamin en Inde, c'est d'apprendre la boxe. Donc c'était à la fois le tough guy, mais à la fois l'homme sensible, qui n'avait pas peur de partager certaines émotions.
Et ça, on le voit bien dans le film, avec ses mains, il peut être tout à la fois le pianiste, l'artiste et le cogneur.
Tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est très très bien présenté dans le film. Ça présente bien toutes les facettes de la vie. Il y a, c'est un encouragement pour le jeune public de découvrir Freddie Mercury. Pour ceux qui le connaissent mieux, il y a de très très nombreux clins d'œil. Donc,
Par exemple,
portrait de Dietrich chez lui.
Oui, bien sûr.
Donc, et voilà, plein de petites choses. Les liens sont assez bien faits. Ce n'est pas 100% entre guillemets biographique. Il y a des éléments qui sont un peu changés pour faciliter aussi le film.
Oui, ça reste un film grand public, on peut le dire.
Voilà, voilà. Mais vraiment, c'est un beau succès. Sacha Baron Cohen devait interpréter le rôle, et je dirais même tant mieux que ce ne soit pas lui.
Il est très très bon, ce Rami Malek.
Ah, il est excellent. Il est excellent. Et pour moi, c'était très important que ce soit des gens pas trop connus entre guillemets qui interprètent des figures dont on est tous marqués, de les avoir avoir vues et revues à la télé, voilà, qui sont assez importantes pour nous. Donc, c'est bizarre de voir, entre guillemets, quelqu'un de connu dans la peau de quelqu'un d'autre de connu, surtout grâce aux images diffusées. Et ça, heureusement que Sacha Baron Cohen n'a pas eu le film. Alors, j'adore Sacha Baron Cohen, mais en plus, il a quitté le film...
Rami Malek, c'est quand même le héros de la série Mister Robot. Hein.
Oui, mais quand on le voit, on rentre facilement... C'est un très bon acteur, on va dire, mais pas une star mondiale. Comme Sacha Baron Cohen, il est même très très connu. Et je trouve que Malek ressemble plus à Freddie Mercury que Sacha Baron Cohen. Et en plus, il voulait en faire quelque chose de différent, Sacha Baron Cohen. Et il y a une polémique justement là-dessus. Il a quitté le projet parce qu'il souhaitait parler un peu plus des fêtes exubérantes de Freddie Mercury. Et je dirais, tant mieux qu'il n'en parle pas, parce que pour moi, c'est un encouragement à aller vivre ces fêtes. Pas seulement aller voir, mais aller vivre pour ces générations d'aujourd'hui qui ont besoin tout de suite des images. On a envie de leur dire, profitez de certaines images, certaines pistes, certaines voix que vous donne Freddie Mercury, toute sa folie, et vivez-les vous-même. Sortez des films et allez faire ces fêtes exubérantes. Ne vous contentez pas de les regarder sur scène.
Et aujourd'hui, plus que jamais.
Exactement.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Bohemian Rhapsody, le film est sorti hier. On parle de Freddie Mercury en compagnie de Steve Krief, journaliste mais amateur de rock et surtout du groupe Queen, et dans le rôle du critique qui n'est peut-être pas très rock'n'roll. Michel Simon est avec nous. Bonjour Michel Simon.
Moi je suis tout. Je suis guitare espagnole, rock'n'roll.
Je vous imagine mal écouter Queen ou avoir le poster de Freddie Mercury chez vous.
Oui, mais écoutez, quand on parle par exemple de Géricault, des chevaux de Géricault, on n'est pas besoin d'être passionné par les chevaux. On parle de la peinture de Géricault. Moi je me passionne pour tous les bons films, quel que soit leur
Alors,
sujet.
Alors est-ce un bon film, Bohemian Rhapsody, Michel Simon?
Un film qui m'a beaucoup séduit. Alors, ce qu'on vient de dire, ce que notre invité vient de dire sur Bryan Singer m'intéresse beaucoup, parce que j'avais pas vu un très bon film de Bryan Singer depuis son premier. Je me demande si Usual Suspects.
Donc le réalisateur du film
était son,
oui, tout à fait,
était
Bryan Singer,
son premier. Et je me disais, tiens, c'est une résurrection. Mais alors maintenant, j'apprends qu'il est parti du tournage.
Oui, c'est assez dingue. C'était lui qui devait réaliser le film, et puis il y a eu certaines disputes, notamment avec l'acteur principal et d'autres petits.
Alors,
finalement, elle était remplacée dernière minute.
Quelle est sa part dans le film, alors?
Non, elle est assez importante quand même, c'est pour ça qu'il garde son nom sur la fiche.
C'est un film surtout qui montre le formidable sens du spectacle qu'ont les Américains. C'est-à-dire que, par exemple, j'étais à l'Institut Lumière là, pour l'hommage à Jane Fonda. Jane Fonda a fait une sorte de one-woman show, une sorte de leçon de cinéma avec le public. Elle s'est mise à danser, elle a chanté au milieu, elle a lancé des diatribes contre les homophobes, etc. C'était un vrai spectacle. C'est-à-dire, les Américains ont un sens inné du spectacle. Et ayant un sens inné du spectacle, quand ils font des biopics en particulier, ils sont les seuls, peut-être pas les seuls, mais ils sont parmi ceux qui arrivent particulièrement à bien faire la vie d'un chanteur, la vie d'un comique, la vie d'une star, parce que, encore une une fois, ils ont ça dans la peau. Il suffit de voir la cérémonie des Oscars. Il y a souvent un grand sens de la
mise
en scène.
Nous, on l'a pas, vous voulez dire, Michel Simon?
On l'a beaucoup moins. Je dis pas qu'il y a des gens en France qui savent aussi faire du spectacle. Mais je pense que le showbiz, c'est pas pour rien que le mot est utilisé en français. Le showbiz, c'est tout de même une spécialité américaine. Et donc, ils sont plus aptes que d'autres à faire ces fameux biopics.
Et pour parler de ce genre, le biopic, enfin quand je dis genre, en fait, il y a plusieurs genres dans biopic. Hein, on a vu en début d'année un documentaire sur Whitney Houston, formidable, qui a rencontré un succès pour un documentaire. Là, c'est beaucoup plus, on peut parler de biopic classique en ce qui concerne ce film Bohemian Rhapsody autour de Freddie Mercury. Est-ce que nous, on peut faire ça? Je veux dire que je me souviens de votre papier sur le biopic de Dahan sur Edith Piaf, vous l'avez pas du tout aimé.
Non, j'ai pas été fou du film de Dahan, mais le biopic a mauvaise presse en général. Les gens se pincent le nez quand ils parlent des biopics. Je ne comprends absolument pas pourquoi. D'abord, il y a eu de grands biopics dans l'histoire. Young Mr. Lincoln de John Ford sur la jeunesse de Lincoln.
Et en France, par exemple, pourquoi
J'ai pas en tête, mais en tout cas, il y en a eu. Miloš Forman a fait de merveilleux biopics, en particulier Larry Flint, Manon de Moon, Amadeus, etc. D'abord, une première chose, c'est que les gens d'exception sont justement intéressants et que quand on raconte leur vie, on apprend des choses. Moi, par exemple, j'ai tout découvert sur ce groupe de Queen parce que justement, je suis pas du tout un amateur au départ de musique rock. J'en écoute et ça a parfois du talent et j'apprécie, mais pas du tout en spécialiste. J'ai appris beaucoup de choses et puis sur le racisme et sur ce Pakistanais qui chante, etc. Donc moi, je comprends pas très bien cette hostilité. Il n'y a pas de mauvais genre, il y a que des mauvais films.
Alors, le film qui est sorti hier, tout le monde s'attend à ce que ce soit un succès, puisque c'est un film très très attendu, Bohemian Rhapsody. S'il fallait passer à la musique en ce moment, celui qui caracole en tête des ventes, c'est Johnny Hallyday. Alors justement, Michel Simon, on sent que tout tard, quelqu'un va faire le biopic de Johnny Hallyday. Vous voyez qui dans le rôle du metteur en scène pour...
D'abord, la différence entre l'Amérique et la France, c'est qu'en Amérique, il y a beaucoup de cinéastes qui sont prêts à faire des choses très différentes, qui sont pas des auteurs, qui n'écrivent pas leur scénario, mais qui savent merveilleusement mettre en scène. Et ceux-là, on leur propose des biopics et ils les choisissent, ils acceptent de les faire. En France, je n'imagine pas tellement les auteurs, ce qu'on appelle les auteurs du cinéma français, c'est-à-dire Godard, c'est-à-dire Desplechin, c'est-à-dire Assayas, c'est-à-dire Salvadori, tous ces gens qui ont énormément de talent, mais qui ont leur univers, qui font des films dans une Philippe Garrel, Jacques Doyon. Ils ont un univers, je les vois pas d'un seul coup passer au biopic d'un chanteur rock. Celui auquel je pense peut-être, c'est quelqu'un qui a le sens du spectacle, qui a le sens des comédiens, qui a le sens de l'humour, le sens de la musique, c'est Claude Lelouch. Je peux imaginer, d'ailleurs il a utilisé Johnny Hallyday dans deux de ses films, il l'a fait jouer, et je peux très bien penser à Claude Lelouch pour mettre en scène, pour raconter des spectacles, des répétitions, etc., des histoires d'amour. C'est un cinéaste qui est très inégal, qui est parfois un peu trop ambitieux peut-être, parfois trop facile, mais qui a fait d'abord de très jolis films. C'est pas seulement moi qui trouve du plaisir à certains films de Lelouch, puisque Kubrick a vu plusieurs fois La Bonne Année et il aimait Le Voyou, etc. Mais je peux penser à Claude Lelouch qui a le sens du spectacle populaire.
Steve Krief, vous imaginez un metteur en scène faisant des biopics comme ce film, Bohemian Rhapsody?
Oui, un metteur en scène particulier, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais moi je pense qu'il doit avoir une proximité, il faut être marqué déjà par la personne sur qui on réalise un biopic. Il doit y avoir cette part de subjectivité, c'est pour ça que c'est amusant dans Bohemian Rhapsody d'avoir un caméo de Mike Myers qui a redonné vie au clip et de le voir justement interpréter quelqu'un qui se caricature lui-même. Donc ça, je trouvais génial. Donc il faut être touché, je pense, par le chanteur après, ou le chanteur ou l'artiste sur qui on fait un biopic. C'est pour ça qu'une personne en particulier, j'ai du mal à le dire, mais chaque réalisateur a été influencé par quelqu'un, par un moment de sa vie, et il faut se raccrocher à ce moment. Dans Bohemian Rhapsody, ce qui est très touchant, c'est que ça parle aussi, ça va autour du Live Aid, qui était la plus grande, jugée comme la plus grande performance scénique de tous les temps. Ces 20 petites minutes de Queen, l'énergie qu'il a, vous parliez tout à l'heure.
Et ça, c'est la virtuosité du show américain. Du film, parce que ce sont des concerts reconstitués, hein. Ce sont pas des archives.
Live Aid, c'était un travail de dingue pour reconstituer ça. Et quand on voit les images originales, on a l'impression vraiment d'être là. Et Geldof, Bob Geldof disait lui-même, je me ressens comme en 85.
C'est pour ça que je vous dis sens du spectacle. Ouais.
Merci Michel Simon, merci Steve Krief. Je rappelle que le film sur la vie, l'itinéraire de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, est au cinéma et qu'on peut lire ce livre, cette enquête sur l'itinéraire de Freddie Mercury chez Fayard, le livre enquête de Salim Rauer. On se retrouve demain, bonne journée.